Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et nous lisons maintenant donc dans 1 Jean, au dernier chapitre, chapitre 5, les versets 13 à 21. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles.
Comme il est absolument certain que le soleil va se lever demain, si ce n'est pas la fin du monde, il est également absolument certain que le Saint-Esprit va nous conduire dans la compréhension de la parole qu'il a inspirée ce matin. Et nous plaçons donc totalement et entièrement notre confiance en lui pour comprendre ce texte de 1 Jean. Le 13 mars 2018, ça vous dit quelque chose? Eh bien, le 13 mars 2018, nous avons commencé la série sur 1 Jean. Ensemble, c'était un dimanche. Et nous avons parlé, durant toute cette série, nous avons commencé par parler du vrai christianisme, de la communion avec le Dieu de lumière. Nous avons parlé de trois tests que nous trouvons dans cette épître, le test moral, le test de l'amour, le test doctrinal. Nous avons souvent parlé de l'amour entre frères et sœurs dans la foi, et du fondement de notre assurance. Vous vous rappelez le fondement de notre assurance? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même le fondement de notre assurance. Et dimanche dernier, nous avons parlé du témoignage donné par Dieu, qui selon 1 Jean 5, 11, dit ceci, « Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. » Et le verset 13, premier verset pour aujourd'hui, eh bien nous parle à nouveau de la vie éternelle. Ce sera d'ailleurs notre premier point, la vie éternelle. Ensuite, Jean nous parle d'une assurance que nous avons auprès du Fils de Dieu. Cette assurance, c'est l'assurance dans la prière. L'assurance dans la prière, ça sera notre deuxième point. Et en fin de lettre, Jean dira trois vérités. Trois « nous savons ». Vous avez peut-être entendu quand on lisait avant, nous savons que, nous savons que. Et ce sera donc trois vérités que nous verrons dans un troisième point. Et pour terminer, Jean va clore sa lettre par un impératif, un ordre, un conseil final que l'on appellera l'avertissement final. Donc, la vie éternelle, ça sera le verset 13. Ensuite, l'assurance dans la prière, versets 14 à 17. Trois vérités, versets 18 à 20, et l'avertissement final, verset 21. Tout cela pour souligner que le croyant a des convictions certaines. que d'autres appellent des certitudes ou des assurances chrétiennes. Hein, le titre de cette prédication est donc « Des convictions certaines ». Des convictions certaines. Et voici donc la première conviction certaine, c'est notre premier point, la vie éternelle. Regardez avec moi, gardez toujours ouvert vos Bibles, dans 1 Jean 5, verset 13. « Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois maintenant, vous savez que le verset 13 de 1 Jean 5 nous indique le but de la lettre de Jean. Et tout comme Jean 20, 31 indiquait le but de l'évangile, souvenez Jean 20, 31, qui nous disait « Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Ça c'était Jean 20, 31. Et Jean écrit l'évangile afin que les gens croient en Jésus-Christ et qu'ils reçoivent la vie éternelle. Ça c'était le but de l'évangile. Et la lettre, l'épître de Jean, eh bien, il l'a écrite afin que ceux qui croient sachent qu'ils ont la vie éternelle, qu'ils sont sauvés. Car cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ceci, je vous l'ai écrit. C'est écrit où, en fait? Ben, dans les versets qui précèdent et en fait dans toute la lettre. Dans toute la lettre de Jean, il nous parle de cette vie éternelle. Et cela a été mis par écrit afin que nous puissions avoir un témoignage qui résiste au temps. Les écrits résistent au temps. Et dès le premier chapitre, Jean parle de la vie manifestée. Vous vous rappelez tout au début, hein, la vie a été manifestée et cette vie en fait est en son Fils Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même en fait. Hein, et il continue dans le chapitre 2. Par exemple, la vie éternelle est une promesse de Dieu. Pour celui qui confesse Jésus-Christ et qui demeure en lui. C'est une promesse. La vie éternelle, c'est une promesse de Dieu pour celui qui confesse Jésus-Christ et qui demeure en lui. C'est écrit dans 1 Jean 2, 25. Si vous regardez, 1 Jean 2, 25. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. C'est écrit. Et comment avons-nous cette vie éternelle? 1 Jean 4, 9 nous le dit, voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Mais ça veut dire quoi vivre par lui, vivre par Jésus-Christ? Eh bien, vivre par Jésus-Christ, c'est croire au nom du Fils de Dieu. Celui qui croit, hein, on revient au verset 13 du chapitre 5, celui qui croit au nom du Fils a la vie éternelle. On pourrait faire une petite question, on a déjà la question du catéchisme ce matin, mais petite question, qui a la vie éternelle selon le texte ici? Celui qui croit au nom du Fils. Ben voilà. Celui qui croit au nom du Fils. Mais croire ici ne signifie pas simplement penser qu'il y a quelque chose de vrai. Non. Croire signifie au moins six choses ici. Quand il dit ça, Jean, il a ces six choses en tête, au moins. Je vous les donne. Première chose, c'est être totalement convaincu que Jésus est homme et Dieu de sa naissance à sa mort et à sa résurrection. Ça, c'est la première chose, quand on dit croire ici. Hein. Être totalement convaincu que Jésus est homme et Dieu, de sa naissance à sa mort et à sa résurrection. Deuxièmement, d'être totalement convaincu que tout ce que Dieu demande est bon. Ça, croire ici. Être totalement convaincu que tout ce que Dieu demande est bon. Troisième élément, vivre exactement ce que Dieu demande. Vous êtes en train de vous dire, attends, mais là, il y a... Ça continue. Vivre exactement ce que Dieu demande, et si nous remarquons que nous ne le faisons pas, nous repentir en étant convaincus que Jésus a payé le prix de notre péché. C'est le troisième élément. Hein. Vivre exactement ce que Dieu demande, c'est ses commandements. Hein. Et si nous remarquons que nous ne le faisons pas, nous repentir en étant convaincus que Jésus a payé le prix pour nos péchés. Quatrième chose, derrière ce terme croire, c'est vivre dans la confiance que Dieu est lumière. La confiance que Dieu est lumière et il va m'éclairer pour que je puisse vivre comme il veut. Il va éclairer. Faut pas avoir peur, je dis, ouais, mais il y a peut-être des péchés que j'ai pas vus. Je vis de la confiance que Dieu est lumière et il va m'éclairer pour que je puisse vivre comme il veut. Cinquième élément, vivre dans la confiance que Dieu est amour. Dieu est amour et il va me garder. Il va me donner ce dont j'ai besoin pour vivre et qui est le mieux ultimement pour moi. Hein, vivre dans la confiance que Dieu est amour, qu'il va me garder et me donner tout ce que j'ai besoin pour vivre et qui est le mieux ultimement pour moi. Et sixième élément, aimer ceux qui sont nés de Dieu, comme nous, pour démontrer que nous saisissons l'amour que Dieu nous donne. Aimer ceux qui sont nés de Dieu comme nous pour démontrer que nous saisissons l'amour que Dieu nous donne. En fait, quand Jean parle de croire au Fils de Dieu, c'est tout cela qu'il a en tête. Voyez? Pourquoi j'ose dire ça? Parce que c'est tout ce qu'on trouve dans l'Épître, en fait. Tout ce que je vous ai dit, on le trouve dans l'Épître. Et celui qui croit a la vie éternelle. Du verbe avoir au présent. Il l'a. Comme on l'a vu la dernière prédication. Hein, c'est pas juste quelque chose pour l'éternité bientôt. Non, il l'a maintenant. Je bénéficie déjà maintenant de sa bonté, de sa rédemption, de son amour, de Jésus-Christ lui-même par son esprit, si je crois au Fils de Dieu. Il n'est pas dit, celui qui croit aura la vie éternelle. Non, il a la vie éternelle. Et c'est cette certitude que Jean désire que nous ayons. Voilà pourquoi il écrit sa lettre. Alors voilà la question qui nous reste maintenant qu'on a vu à peu près toute la lettre. As-tu cette certitude de la vie éternelle? C'est une question sérieuse que je vous encourage à répondre vous-même, pour vous-même, et d'y réfléchir. Et Jean continue en parlant ici d'une merveilleuse assurance. C'est notre deuxième point, les versets 14 à 17. Peut-être vous les relire. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Le verset 14 parle ici d'une assurance. Vous avez vu? Voici l'assurance. L'assurance que nous avons ici, c'est la prière exaucée. Alors, si vous avez un petit peu de mémoire, vous vous souvenez que dans 1 Jean, on a déjà parlé de ça en fait. Dans 1 Jean 3, le verset 22, il était écrit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Vous vous souvenez, on avait déjà vu ça en fait. Et on avait parlé d'un arbre avec des racines, un tronc, des branches. Les branches, c'était les prières exaucées. Le tronc, c'était le fait de vivre les commandements. Et la racine, c'était l'Esprit Saint en fait, qui habitait dans celui qui était né de nouveau. Eh bien, pour notre texte ici, il est question d'une demande selon la volonté de Dieu. Il est question de l'écoute de Dieu. Et il est question de la prière pour le péché d'un frère. Il y a trois choses ici. Donc la demande selon la volonté de Dieu, de l'écoute de Dieu et de la prière pour le péché d'un frère. On va voir ces trois éléments. On va commencer par la demande selon la volonté de Dieu. Eh bien, nos demandes sont en fait comme des trains avec plus ou moins de wagons. On a des demandes des fois plus ou moins longues. J'ai déjà vu, hein, quand on prie des fois des demandes très courtes, des fois des demandes très longues. C'est comme un train, quoi, plus ou moins long. Et en fait, les rails représentent la volonté de Dieu. Alors pour qu'un train puisse avancer et aller loin, il a besoin d'être mis sur les rails. Si les rails représentent la volonté de Dieu, il faut donc mettre le train de nos demandes sur les voies de la volonté de Dieu, sinon le train ne peut pas avancer. Vous comprenez? Donc avant de prier quelque chose, eh bien il faut nous demander si cela est possible que ce soit placé sur ces rails de la volonté de Dieu, selon ce qu'il nous a révélé. Est-ce que ce que je vais demander correspond à la volonté de Dieu? Par exemple, vous pouvez dire, ah, mais je vais demander à Dieu qu'il me donne l'opportunité de copier sur la feuille de mon voisin au prochain examen. Je vais prier ça. Alors là, je vous dis, attends, faut réfléchir, hein. Je réfléchis. Et puis, je réfléchis un moment, puis je me dis, attends. En fait, je peux reconnaître que Dieu commande de pas tricher. Parce que tricher, en fait, c'est tout autant du vol, où on prend à l'autre quelque chose qui nous appartient pas, que du mensonge. On fait croire qu'on connaît quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, cette demande, ce wagon-là, peut pas être placé sur les rails de la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc il vaut mieux l'abandonner et pas le demander, il va pas y répondre. On peut pas le mettre sur les rails. Demander selon la volonté de Dieu, ce n'est par contre pas chercher à percer le secret de la volonté décrétive de Dieu, de ce qu'il a décrété qui va se passer. Non, on va chercher à prier selon la volonté révélée, ce qu'il nous a révélé dans sa parole. Dieu, il cherche pas des personnes qui aiment les devinettes, qui essaient de connaître à l'avance ce qu'il va faire. Peut-être, ah, maintenant que je sais ce qu'il va faire, je vais prier et il va répondre. Mais non, c'est pas ça qu'il demande. Non. Nos prières ont une influence dans le cours de l'histoire. Elles ont une influence dans le cours de l'histoire. Parce qu'elles font partie de ce que Dieu veut. C'est sa volonté que nous prions. Et il veut que nous le fassions en cherchant à avoir une même façon de penser que lui. C'est ça, en fait. Et le croyant est son enfant. Il est né de Dieu. Donc il a des caractéristiques qui ressemblent à son géniteur. L'Esprit de Dieu habite en lui. Et en s'éloignant du péché, en étant purifié, le croyant va toujours plus avoir un fonctionnement de pensée qui se rapproche de celle de Dieu. Ou de celui de Dieu. Du même fonctionnement, vous voyez? Et lorsque le train des demandes est sur le rail de la volonté de Dieu, les vibrations de ces rails atteignent Dieu qui l'écoute, évidemment. Et c'est cette deuxième partie, hein. La demande selon la volonté de Dieu, l'écoute de Dieu. C'est comme les ondes radio. Vous pouvez envoyer tous les messages que vous voulez. Si vous ne les envoyez pas sur la fréquence d'écoute de la personne qui est ailleurs, il n'entendra rien. On doit être sur la bonne fréquence. Bien, pour une autre image, ou pour simplifier, hein, si vous voulez envoyer de l'eau dans un tuyau, hein, et dans un bassin de réception, il faut que le tuyau soit dans le bassin. Si le tuyau n'est pas dans le bassin, pour envoyer autant d'eau que vous voulez, avec autant de pression que vous voulez, il n'y a rien qui arrivera à la bonne place. Vous comprenez? Mais lorsque l'émetteur pour la radio est sur la bonne fréquence, ou que le tuyau est relié au bon endroit, quelques mots, ou même un petit filet d'eau, arrivera à destination. En fait, Dieu entend les plus petits wagons de nos demandes, de nos trains sur les rails de sa volonté. Et quand Dieu écoute, il y a toujours un résultat. Toujours. Quand Dieu écoute, il y a toujours un résultat qui est le meilleur pour nous. Même si parfois cela nous amène à apprendre la patience ou l'acceptation d'autres choses que ce que nous aurions souhaité. Mais il y a toujours une réponse de notre Seigneur. Et Jean va jusqu'à dire que ce que nous demandons de cette manière, nous savons que nous le possédons déjà. C'est ce qu'il dit dans le texte. Parce que quand Dieu entend la voix de ses enfants, il y répond. Et il va illustrer son propos ici en parlant de la prière pour le péché d'un frère. On est toujours dans le même sujet de la prière. Alors comment savoir si cette demande est sur les rails de sa volonté? Eh bien, en parcourant toute l'épître de Jean, nous avons constaté que l'amour pour les frères et sœurs fait partie de la volonté de Dieu. C'est évident. L'amour pour les frères et sœurs fait partie de la volonté de Dieu. Et cet amour va se traduire par des actes concrets. C'est pas je dire, moi j'aime bien mes frères et sœurs dans la foi, mais j'ai aucun contact, je m'intéresse pas à ce qu'ils... Non, c'est pas ça. Ça va se traduire par des actes concrets, une attention réelle portée à ceux qui sont nés de Dieu comme nous. Et la prière pour le péché d'un frère en fait partie et sera vécue selon l'esprit de Galates 6, 1 et 2. Vous vous rappelez Galates 6, 1 et 2? Alors c'est dans l'artisan de paix quand on parle de redresser avec douceur, hein. C'était ceci. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Il est important de saisir dans cet exemple de prière pour le péché, dans 1 Jean 5, qu'il s'agit d'un frère. Ça, vous le voyez, hein, verset 16. Si quelqu'un voit son frère, important ce terme ici. Il est important de saisir que c'est donc un frère, donc un croyant, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a la promesse de la vie éternelle selon la volonté de Dieu. Ok? Un frère qui a la promesse de la vie éternelle. Deuxièmement, il s'agit d'un péché que l'on voit. Si quelqu'un voit son péché, c'est pas une supposition. C'est pas quelque chose qui m'est rapporté. C'est pas quelque chose que l'on imagine qui se passe dans le cœur de cette personne. Non. Quelque chose que l'on voit. C'est clair. Il s'agit d'un péché que l'on voit, ce n'est pas une supposition, ce n'est pas quelque chose qui m'est rapporté, ce n'est pas l'imagination de ce qui se passe dans son cœur. Alors là, on arrive à une première difficulté, ou petit mystère, ou grande réflexion. C'est cette histoire de péché qui ne mène pas à la mort. En lisant ce texte avant, on dit, qu'est-ce qu'il va raconter? Ben voilà, je vais y faire face maintenant. Eh bien, c'est une manifestation, une affirmation étonnante, c'est vrai, dans la Bible. Surtout quand on connaît un peu la Bible. Un péché qui ne mène pas à la mort. Mais comment est-ce possible? N'est-il pas écrit dans Romains 6, 23, par exemple, car le salaire du péché, c'est la mort. Attends. C'est vrai. Et il y a aucune exception de Romains 6, 23. Certains diront, ben voilà, la Bible se contredit. Ben, ils oublient de lire la suite de Romains 6, 23, en fait. On va le faire. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. C'est dans le même verset, hein. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Cela signifie qu'il existe des péchés qui ne mènent pas à la mort du pécheur, parce que Jésus-Christ a subi cette mort à la place du pécheur. Le péché expié ne mène donc pas à la mort éternelle du pécheur. Voilà. Tout péché a comme salaire la mort. C'est vrai. Et Jésus-Christ a pris cette mort pour ceux qui l'ont racheté. Donc celui qui est racheté commet des péchés qui ne mènent pas à la mort. Jean demande ici à ses lecteurs de prier pour les frères qui pêchent. Comme il est né de Dieu, il ne peut pas pécher de manière continuelle. Sinon, il n'est pas de Dieu. Jean l'avait déjà dit en 3.9, hein, et nous l'avions expliqué quand il disait « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. » On avait expliqué cela. Hein. C'était une notion de péché continuel. Et Jean savait que les enfants de Dieu pêchent encore, tout en cherchant à pas pécher. Regardez dans 1 Jean 2, le même livre, qui dit ceci « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » Ok, c'est clair. Et si quelqu'un a péché? Ah bon? Donc on peut pécher. Enfin, ça peut arriver. Eh bien, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ne péchez pas. C'est valable pour chacun de vous, pour vos frères et sœurs dans la foi. Et si quelqu'un voit son frère commettre un péché, il sait que ce péché a été porté par Christ à la croix, puisqu'il a porté tous les péchés de son peuple. Il va donc implorer le pardon de Dieu, prier pour son frère, prier pour que son frère se détourne de son péché, pour vivre dans la lumière selon la volonté de Dieu, et qu'il puisse communiquer avec Dieu en mettant le train de ses prières sur les rails de la volonté de Dieu. Celui qui ne se repent pas consciemment ne peut plus mettre son train sur les rails de la volonté de Dieu. C'est ce que le psalmiste disait, hein, psaume 66, 18, qui dit « Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » J'espère que vous avez maintenant compris cette première difficulté dans la phrase « Un péché qui ne mène pas à la mort ». C'est un péché d'un racheté qui ne subira pas la mort éternelle parce que Jésus est mort à sa place sur la croix. Donc c'est un péché d'un racheté qui ne subira pas la mort éternelle parce que Jésus est mort à sa place sur la croix. Si vous avez compris aussi qu'il nous est demandé de prier pour le péché d'un frère, vous avez compris que Dieu ne nous demande pas de vivre seulement notre foi en privé seulement, mais également de manière communautaire. C'est-à-dire que le péché de mon frère et de ma sœur ne me laisse pas indifférent. Nous sommes dans un monde individualisé à l'extrême, ici, en Occident, et on dit ça, c'est privé, c'est son affaire, et puis c'est pas mon affaire. C'est pas biblique. Si mon frère pêche, je suis concerné et je vais prier pour cela. Bon, vous allez me dire, on n'a fait que la moitié du chemin parce qu'il y a encore autre chose dans le texte ici. On continue. Deuxième difficulté, c'est un péché pour lequel Jean dit de ne pas prier. Passons maintenant donc à cette deuxième difficulté. Il dit qu'il y a un péché qui mène à la mort et ce n'est pas pour celui-là qu'il faut prier. Et puis une fois qu'il a dit cela, ses lecteurs peuvent être un peu perdus. Ouais, mais attends, un péché qui ne mène pas à la mort, un péché qui mène à la mort. Mais en fait, c'est quoi un péché? Pour finir, hein. Bon, là, il le précise, vous pouvez regarder avec moi au verset 17, où il dit « Toute injustice est un péché ». Voilà, on remet un peu les pendules à l'heure, hein. Toute injustice est un péché. Et en fait, en disant cela, il va dire que, comme on l'a vu dans 1 Jean 3,4, vous vous souvenez, hein, 1, 2, 3, 4, puis on remplace le 2 par Jean, ça fait 1 Jean 3, 4, c'est la définition du péché. Souvenez, hein. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Le péché, c'est la violation de la loi. Donc, violer la loi de Dieu, c'est commettre une injustice. Toute injustice est un péché. Voilà, on retrouve ça dans le verset 17. Ok, donc la définition du péché n'a pas changé. Nous sommes rassurés maintenant. Hein. Mais pourquoi Jean dit-il de ne pas prier pour un péché qui mène à la mort? Eh bien, parce qu'on est dans un contexte qui est le contexte de l'assurance de la prière exaucée. Ça, c'est le contexte ici. L'assurance de la prière exaucée, hein, sur les rails de la volonté de Dieu. Et quelle prière il est inutile de faire pour être exaucé? C'est-à-dire des prières qui ne sont pas sur les rails de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que ce péché qui mène à la mort? Alors moi, je peux vous dire que il y a beaucoup d'encre qui a coulé à ce sujet. Et je vais vous épargner tous les développements possibles pour vous donner une conclusion simple à laquelle je suis arrivé, qui me semble qui peut être utile. Alors déjà, une conclusion très simple. Pour qu'un péché mène à la mort, il ne doit pas être pardonné. C'est ok. Parce que tous les péchés qui sont pardonnés, ou pour lesquels Christ est mort, ben, ne mènent pas à la mort, puisqu'on est pardonné. Vous comprenez? Donc, pour qu'un péché mène à la mort, il doit ne pas être pardonné. Et le péché non pardonné est le péché de ceux qui ne se repentent pas, qui s'endurcissent jusqu'à la mort dans leur entêtement de ne pas reconnaître deux choses particulièrement. Première chose, la souveraineté de Dieu devant qui ils doivent rendre des comptes. Et deuxièmement, son œuvre de rédemption par Jésus-Christ, Dieu homme, qui donne accès au salut et au pardon des péchés. Ça, c'est le péché non pardonné. C'est le péché de ceux qui ne se repentent pas et qui s'endurcissent jusqu'à leur mort dans leur entêtement de ne pas reconnaître la souveraineté de Dieu et de ne pas reconnaître son œuvre de rédemption. Alors, inutile de prier pour ce péché d'endurcissement ultime, pour que ce péché d'endurcissement ultime soit pardonné. Dieu ne va pas le faire, parce que si Dieu le faisait, il ne serait plus ni saint, ni juste, ni amour, ni vrai. En fait, c'est mettre notre train en dehors de rail de la volonté de Dieu. On peut pas prier que Dieu pardonne à quelqu'un qui est resté endurci jusqu'à la mort dans son entêtement contre Dieu. On peut pas. Ça serait changer le jugement juste de Dieu. Tout péché doit être jugé, et les seuls qui ne mènent pas à la mort sont ceux pour lesquels Jésus est mort. Et il y en a extrêmement, énormément beaucoup. Parce que c'est tous les péchés de tous les élus de tous les temps. Il y en a vraiment beaucoup pour qui Jésus-Christ est mort. Il est inutile de prier pour que Dieu pardonne un péché pour lequel une personne n'a consciemment, jusqu'à la fin de sa vie, pas voulu se repentir. Jésus parle aussi de cela quand il parle de l'endurcissement de certains de ses auditeurs. Il parlera d'un aspect en parlant là du blasphème contre le Saint-Esprit. Mais si la personne est encore en vie, prions plutôt Dieu que Dieu transforme la vie de cette personne, afin qu'elle puisse voir son péché et s'en repentir en saisissant l'œuvre que Christ a payée. Et cela, Jean ne l'interdit pas. Il dit simplement de ne pas prier pour le péché qui mène à la mort. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit que tout ce qu'on demande va être exaucé. Si on demande ça, ça ne va pas être exaucé. Mais vous pouvez demander que quelqu'un qui semble à vos yeux endurci puisse être transformé. Oui, ça, bien sûr. Et nous désirons que Dieu transforme cette personne et se repente de son péché, de ses péchés. Et Dieu est capable de faire cela. À la fin de ce point, rappelons-nous donc ces quelques vérités dans ces versets 14 à 17. Premièrement, Dieu exauce nos prières que nous lui adressons selon sa volonté. C'est le train sur les rails de la volonté de Dieu. Deuxièmement, Dieu donne la vie aux frères qui pêchent pour lesquels nous prions, aux frères. Troisièmement, Jean ne dit pas de prier pour que Dieu pardonne un endurcissement de celui qui ne se repent pas. Et d'ailleurs, il avait sûrement en tête les antichrists dont on a déjà parlé dans 1 Jean, qui était sorti du milieu de la communauté des lecteurs. Et quatrième chose, cela n'interdit pas de prier pour la transformation de ces personnes. Mais en fait, c'est pas le propos de Jean ici qui nous parle de l'assurance des prières exaucées. Et ce sera toujours le cas lorsqu'on prie pour le péché d'un frère ou d'une sœur. toujours. Toujours. C'est tellement rassurant. Et justement, la première des trois vérités que Jean nous propose ici à la fin, en fin d'épître, pour reprendre et résumer des grands thèmes qu'il a abordés dans sa lettre, est le fait qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Et dit, nous savons, nous savons, nous savons. Relisez avec moi les versets 18 à 20. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Jean disait au verset 13, afin que vous sachiez. Il dit maintenant, nous savons. C'est certain, c'est une certitude. Il y a des conséquences certaines. Un pépin de pomme va donner un pommier. Ah ouais, ça va pas donner un bananier ou je sais pas. C'est évident. C'est des certitudes. Et Jean présente trois vérités, trois certitudes. L'une sur la filiation, la seconde sur les deux pouvoirs et la troisième sur la révélation de Jésus étant Dieu. Alors la première vérité, celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher de façon continuelle. Cela ne fait plus partie de sa nature. Il se repent de ses péchés. Oui, il va encore pécher, je pêche, vous péchez encore. Mais nous nous repentons, celui qui est en Christ se repent de ses péchés, saisit la grâce de Christ et cherche à progresser dans la sainteté. Là, c'est comme un âne qui a changé de nature en lion. Je trouve souvent l'âne et le lion, comme ça, ça nous fait des échos. Hein. Et, alors, celui qui a été changé en lion, en fait, il peut continuer à essayer de braire, ça c'est la justification, hein. Ou de brouter l'herbe, ça c'est péché. Donc le lion, là, qui essaie de braire ou de brouter, ok, selon ses anciennes habitudes. Mais en fait, c'est le rugissement, ce que j'appelle la repentance ici, et manger de la viande, la sainteté, qui le mettront à l'aise. Il sera à l'aise quand il mangera de la viande et quand il rugira. Et un chrétien est à l'aise. Je dis pas que c'est facile, la repentance et la recherche de sanctification. Mais quand on le vit, on est bien. C'est notre nouvelle nature. C'est la nature que Dieu nous donne. Et si nous ne sommes pas bien lorsque nous sommes repentis et lorsque nous cherchons à vivre la sainteté, bah peut-être qu'on a encore toujours la nature de l'âne qui cherche à se justifier et qui broute son herbe de péché. Et de plus, celui qui est engendré éternellement de Dieu, ce n'est pas nous, celui qui est engendré éternellement de Dieu, c'est le Fils de Dieu, garde celui qui est né de Dieu. Le malin ne peut pas le vaincre. Car ce dernier ne peut plus l'accuser, il peut plus le condamner, il peut plus le séparer de l'amour de Dieu. Vous voyez Romains 8 là derrière, hein. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour celui qui est né de Dieu. Le malin ne peut plus rien contre lui. Jésus a tout accompli. Or la filiation est une assurance. Cette notion d'être né de Dieu, c'est une assurance. Dieu ne laisse tomber aucun des membres de sa famille dans un péché connu dont il ne se repentira pas. Jamais. Dieu ne laisse tomber aucun des membres de sa famille dans un péché connu dont il ne se repentira pas. Donc ça, c'était la première vérité, la filiation. C'est très fort dans Jean. Deuxième vérité, c'est les deux pouvoirs. Il existe deux pouvoirs, celui de Dieu et celui du malin. Le pouvoir de Dieu est légitime, celui du malin est une usurpation. Vous savez, Satan, il est prince de ce monde. C'est vrai, Jésus l'a dit. Mais il n'est pas prince de ce monde parce qu'il y a été établi. C'est le péché qui lie le monde à Satan, qui en fait le prince du monde pécheur. Il faut donc se rendre à l'évidence. Tout ce qui n'est pas soumis à Dieu dans le monde est soumis au malin. Tout ce qui n'est pas soumis à Dieu est soumis au malin. Et je ne parle pas ici de souveraineté ou de pouvoir ultime, mais de pouvoir vécu dans l'allégeance. C'est-à-dire, c'est pas Satan, il n'a pas un pouvoir ultime sur tout ce qui se passe. Non, il a le pouvoir parce que le monde se soumet à lui en péchant. Et celui qui agit selon Dieu, c'est-à-dire en se repentant de son péché, en saisissant l'œuvre de Christ qui purifie, indique qu'il est de Dieu, qu'il est sous son pouvoir. Deuxième, nous savons que nous sommes de Dieu. Et celui qui agit selon la loi du monde, c'est-à-dire lorsqu'il pêche, il ne se repent pas, il se justifie même. Ou il va même encore dire que certains péchés, c'est bon, comme on le voit actuellement dans le monde. Eh bien, il indique qu'il est du monde, qu'il est sous le pouvoir du malin. il n'y a pas d'entre deux. Soit tu es de Dieu, ou soit tu es du monde sous le pouvoir du mal. Et Jean termine par une troisième vérité qui commence de nouveau par « nous savons », verset 20. « Nous savons !» Pilar, qu'est-ce qu'on sait ici? Moi, je trouve que c'est extrêmement fort. Je vais aller voir même dans les textes de la langue originale pour voir si on ne pouvait pas s'y tromper ici. Hein. Mais c'est très clair, en fait. Nous savons que Jésus-Christ est Dieu. C'est clair ici. C'est clair. Et il donne l'intelligence pour le connaître, lui, la vérité. Il est parfaitement clair. Regardez avec moi la fin du verset. Quand il dit « c'est lui », donc on vient de parler de Jésus-Christ, hein, « c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle ». Parce que si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas nous donner l'intelligence pour connaître la vérité. Mais Jésus est Dieu, le seul vrai Dieu. Et c'est un Dieu qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Oui, c'est vrai qu'on parle de Trinité, de trois en un, etc. Parce que la parole révélée nous permet de saisir certains éléments. Mais on ne peut pas expliquer Dieu. Il est autre. Il est complètement autre. Et pourtant, il s'est révélé de manière suffisante pour que nous puissions entrer en relation avec lui. Ce Dieu est venu parmi nous en tant qu'homme. C'est lui qui a dit « Celui qui m'a vu » a vu le Père. Souvenez dans Jean 14. Ou bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hein, Jean 14, 6. Jésus est Dieu. Et c'est une vérité fondamentale. C'est une des trois vérités que Jean veut souligner à la fin de sa lettre. Tellement c'est important. Hein, ces trois vérités, la première, la filiation. Nous vivons selon notre nouvelle nature. Jamais dans du péché permanent. C'est pas possible. Parfois, on a un peu de la peine à se repentir. Ça peut arriver, malheureusement. C'est vrai. Mais c'est pas permanent. Pas possible en tant qu'enfant de Dieu. Les deux pouvoirs. Deuxième vérité. Nous sommes de Dieu. Et troisième vérité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu lui-même est venu et il nous donne l'intelligence pour le connaître. C'est un fait. Il nous donne l'intelligence pour le connaître. Et Jean termine, c'est un peu étonnant comme il termine, certains se sont dit, mais pourquoi il termine comme ça? Il dit comme ça, verset 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Je dis, attends, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une mouche qui l'a piqué, puis il a dit, non, mais non. Pourquoi il termine? Est-ce que ça n'a pas de lien? Mais si, c'est un lien. Qu'est-ce qu'il vient de dire juste avant? Que Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un Dieu. C'est le Père, Fils, Saint-Esprit. Et le Fils est venu en tant qu'homme. C'est la clé pour connaître le vrai Dieu face à toutes les idoles. C'est la clé. Il n'y a qu'un Dieu, c'est le Père, Fils et Esprit. Et le Fils est venu en tant qu'homme. C'est la clé pour reconnaître le vrai Dieu de tout le reste des idoles. Vous savez, vous pouvez le faire avec toutes les religions, tous les mouvements. Hein. Vous pouvez prendre l'islam, le judaïsme actuel, les témoins de Jéhovah et compagnie, ou tous les laïcs en plus. Parce que c'est une religion. Pour n'en citer que quelques-uns, ils ne croient pas en Dieu, Père, Fils, Esprit, et que le Fils est Dieu et homme. Tous ceux qui ne croient pas ça, ils croient en des idoles. Et les idoles sont aussi toutes sortes de choses, louables ou non, qui peuvent prendre la place de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire qui dirigent notre temps, nos priorités, nos finances. Je peux vous dire, le temps que vous utilisez dans la semaine, je dis, mais qu'est-ce qui me fait prendre des décisions pour l'utiliser de cette manière ou de cette manière? C'est ce qui définira votre Dieu, votre idole. Il y a un seul Dieu, et toute tentative de chercher ailleurs son bonheur, une référence ou un sens à sa vie, c'est se confier à une idole. Mais rester fidèle à Dieu, c'est notre joie, notre salut. Aucune idole n'est venue mourir pour nous. Et si elle le faisait, elle ne pourrait pas le faire à notre place. C'est pas possible. Aller vers tout autre Dieu qui est appelé idole, c'est se fourvoyer, c'est marcher en dehors du salut de Jésus-Christ, le seul Dieu. Même ceux qui sont sortis du milieu de la communauté et des lecteurs et qui prétendent que Jésus est Dieu et non homme, adorent en fait une idole. C'est pour ça que je leur dis, mais fuyez, gardez-vous des idoles. Restez fidèles à Christ, à ce Dieu, Père, Fils et Esprit, ce Fils, homme et Dieu qui est venu pour nous sauver. Conclusion, quelques termes. Jean désire que ses lecteurs sachent que tous ceux qui croient au Fils de Dieu ont la vie éternelle. Il est impossible de se laisser diriger par une idole et croire en même temps au Fils de Dieu. C'est pas possible. On peut pas faire les deux. Oui, c'est vrai qu'en tant que chrétien, parfois on se rend compte qu'on a encore des tendances. Ça, c'est vrai. Ça, c'est des péchés dont on se repent. Mais on peut pas en même temps se laisser guider par une idole et dire qu'on a foi au Fils de Dieu. Donc là, quelques questions pour terminer. As-tu des convictions certaines? On a vu plusieurs convictions ici. Une des convictions, c'est, es-tu sûr d'avoir la vie éternelle? Es-tu sûr d'avoir la vie éternelle? Deuxième, as-tu l'assurance d'être entendu dans tes prières faites selon la volonté de Dieu? Si tu dis, mais c'est sûr, si je prie selon sa volonté, Dieu va répondre. C'est une assurance. Et as-tu des convictions claires quant à ta filiation, au pouvoir auquel tu es soumis et à la divinité de Jésus-Christ qui est venu? En fait, ton assurance dépend de cela. Ton assurance dépend de cela. Donc, fuis les idoles auprès desquelles tu ne trouveras aucune assurance. J'en veux que ce lecteur ait une assurance. Et il sait que s'ils vont à l'idole, ils n'auront jamais aucune assurance. Donc, fuyez les idoles auprès desquelles nous ne trouverons aucune assurance. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, ta parole est solennelle. Nous aimons terminer souvent dans une note positive qui montre comme tout est beau. Et voici que cette lettre termine sur une note d'avertissement. Mais Seigneur, nous voulons aussi comprendre cette note d'avertissement comme étant quelque chose de beau, parce que cela nous dirige vers toi. Cela écarte tout autre chemin, non pas pour nous priver de bonnes choses, oh non, mais pour nous priver de mauvaises choses, pour nous priver de tout ce qui nous égare, pour nous priver de tout ce qui nous donne aucune assurance ou des fausses assurances qui sont balayées par les circonstances de la vie, par les épreuves, par les douleurs. Non, Seigneur, tu veux qu'on vienne à toi, à Jésus-Christ le seul, qui est une assurance sûre, solide, fiable, qui a traversé toutes les époques, qui est Dieu venu homme, pour que nous puissions être sauvés. Seigneur, j'aimerais te prier que chacun ici présent puisse lire ce texte de 1 Jean 5,13 et dire oui, 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 je crois en ce Fils et je sais que j'ai la vie éternelle. Garde-nous du malin. Garde-nous des tentations de douter de ta parole. Garde-nous, Seigneur, de chercher à vivre notre vie chrétienne de façon privée dans notre coin. Garde-nous aussi à l'opposé de chercher à vivre la vie chrétienne pour les autres. Donne-nous, Seigneur, de l'humilité et surtout beaucoup d'amour dans ta lumière. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.